Bonjour à tous, bonjour Christian, bonne année à tous puisque c'est le premier Agora de l'année. Bonjour Caroline Janvier.
Bonjour.
Bonjour voilà. Sophie.
Et vous êtes notre invitée aujourd'hui en tant que députée République En Marche de la deuxième circonscription du Loiret, et ce depuis le 18 juin. Alors nous allons revenir avec vous sur vos premiers pas d'élu de la République à l'Assemblée nationale. Nous évoquerons également les chantiers pour 2018 après la feuille de route donnée par le président de la République lors de sa présentation télévisée des vœux. C'était aux Français, bien sûr, c'était le 31 décembre. Mais on démarre cette émission par un petit portrait. Vous avez 35 ans, vous êtes mère de 3 enfants. Vous étiez la benjamine des candidats République En Marche du Loiret. Vous exercez votre activité de députée de la seconde circonscription du Loiret à plein temps, puisque vous avez pour cela démissionné de votre travail à Saint-Jean-de-Bray en tant que conseillère technique à l'AIDAFI du Centre. C'est l'association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées. Et donc on ne sera pas étonné d'apprendre que vous avez choisi de travailler à l'Assemblée nationale au sein de la commission des affaires sociales. Caroline Janvier, on a envie de vous demander déjà vos premiers pas de députée quand vous êtes arrivée à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. C'était impressionnant ce premier jour où on prend vite ses marques en fait.
C'est sûr que c'était impressionnant quand on rentre dans l'hémicycle. On est un peu envahi par un sentiment de responsabilité face à la mission, à l'ambitieuse mission qui nous est confiée. On est très bien accompagné, très bien entouré à l'Assemblée. Les fonctionnaires sont vraiment formés et outillés pour vraiment nous faciliter la tâche. Donc c'est vrai que ça soit l'Assemblée et le groupe parlementaire, on a eu tout de suite beaucoup d'informations, beaucoup d'accompagnement pour nous permettre d'être opérationnels le plus rapidement possible.
Christian Bidault.
Oui, alors je lisais dans un journal du soir récemment que les 321 élus de macronistes ont changé la vie de l'Assemblée. On les sait plus jeunes, mais aussi plus présents. On dit que vous êtes beaucoup plus présents que vos prédécesseurs à l'Assemblée, comment ça se fait?
Oui, alors ils sont aussi, dernière petite précision, plus féminins. On est à 38%. Je crois que c'est pas un petit changement. Effectivement, alors je peux pas comparer par rapport aux mandatures précédentes puisque je n'y étais pas, mais c'est vrai qu'on est très présent du lundi parfois jusqu'au samedi matin. Donc ça en fonction des semaines et des permanences, avec effectivement des sessions qui terminent à 1h, 2h, parfois 3h du matin. Donc et on a à cœur effectivement d'être présent, de porter les projets de loi qu'on défend.
Oui, il y a certains de députés macronistes, notamment une femme dont le nom n'a pas été dévoilé, qui s'est plainte en disant « mais c'est pas possible, on n'a plus le temps de rien faire et puis on est très mal payé par rapport à ce qu'on pouvait l'être avant ». C'était une chef d'entreprise, je crois. Vous adhérez à ce genre de propos?
Alors non, je trouve qu'il serait malaisé de se plaindre, et notamment des conditions financières, puisqu'on sait que pour beaucoup de Français, notamment ceux qui travaillent de nuit, ceux qui travaillent, il y a beaucoup de Français qui travaillent 60-70 heures par semaine avec des niveaux de salaire qui sont parfois pas satisfaisants. Donc je crois qu'il est malvenu de se plaindre, mais je crois qu'il est quand même important de donner cette information et de dire qu'effectivement on est au travail, ça demande à la fois des sacrifices personnels, un investissement en temps, et puis sur le plan du sommeil, effectivement c'est physiquement, c'est vrai que c'est difficile, mais je n'irai pas me plaindre de cette situation.
Alors, vous êtes mis au travail tout de suite, Caroline Janvier?
Ah oui, tout de suite, effectivement. Et puis c'est vrai qu'au départ, pour être, comme je le disais, opérationnel rapidement, il a fallu se saisir d'un certain nombre de sujets, que ce soit les sujets, bien entendu, en premier lieu, qu'on vote, donc qui sont très techniques. Un projet de loi, que ce soit dans les différents articles de loi, chacun des alinéas qui composent les articles de loi, ça demande beaucoup de travail pour le comprendre, pour le maîtriser.
Ça a été le cas de la loi travail, par exemple?
Par exemple, qu'on a effectivement travaillé avant son examen en hémicycle, en commission, mais c'est aussi après le cas du travail en circonscription. Et ça demande, à mon avis, un peu de temps et d'organisation pour arriver justement à discerner, à faire le lien entre ce qu'on fait en circonscription à Paris et à ne pas se perdre dans les sollicitations et dans les sujets qui nous sont proposés.
Alors justement, c'est le côté un petit peu négatif du non-cumul des mandats, c'est que vous n'êtes pas présente en circonscription, puisque vous n'avez pas de mandat local. Comment vous y prenez pour, j'allais dire, prendre le pouls de votre circonscription, de vos électeurs, le nom des électeurs d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a un vrai changement dans ce non-cumul, mais il me semble qu'il est intéressant dans la mesure où il permet de se recentrer sur le vrai rôle du député, qui n'est pas de gérer des ressources locales, des projets d'équipements locaux, donc qui a vraiment un mandat de représentation nationale, de représenter tous les Français, en tenant compte des particularités locales. Donc moi, la façon dont je m'y prends, c'est déjà d'être très présente aux côtés des élus. J'ai quasiment rencontré là, les 39 maires de ma circonscription de façon individuelle. J'essaie d'être présente, donc ça soit aux cérémonies des vœux ou aux autres cérémonies, à toutes les occasions, à chaque fois que je suis invitée, et d'être présente aussi sur des sujets sur lesquels ils m'interpellent. Donc il y a ce travail-là auprès des élus qui me semble effectivement fondamental, mais il y a aussi tout le travail de lien avec les citoyens.
Alors ce lien avec les citoyens, il passe notamment par votre permanence que vous avez installée dans votre circonscription rue de Patay à Orléans. Comment vous vous organisez également, parce que vous ne pouvez pas répondre à toutes les sollicitations, comment on fait ?
Alors effectivement, pour les personnes qui me sollicitent de façon directe pour un rendez-vous, notamment en permanence, j'essaie dans un premier temps d'identifier de la demande et de comprendre ce qui relève ou non de ma compétence. C'est-à-dire que quelqu'un qui va me parler par exemple d'une problématique locale d'aménagement d'un trottoir qui est endommagé, je vais plutôt le renvoyer vers sa mairie ou vers l'interlocuteur qui pourra lui répondre. En revanche, quelqu'un qui va me parler d'une situation qui est généralisable à toute une catégorie de population, je vais effectivement le recevoir, mais ensuite, pour que ça donne quelque chose, d'aller voir les administrations, la préfecture, les instances qui pourront me répondre, et si je ne peux pas obtenir des réponses au niveau local, d'essayer de voir auprès des cabinets des ministères ou des administrations centrales, ce qui peut être fait, que ce soit au niveau réglementaire ou législatif.
Alors Caroline Janvier, on l'a dit au début, beaucoup de travail, vous êtes beaucoup présente à Paris, pratiquement 6 jours sur 7, sans entrer dans votre vie privée. Comment vous faites quand on est une maman de 3 enfants ?
Alors, je suis pas, juste pour préciser, je suis pas présente 6 jours. On a un système de permanence qui fait qu'en fait, on est de permanence toutes les 3 semaines. Donc, la présence 6 jours sur 7, c'est effectivement une semaine sur 3. Et les autres semaines, je suis à Paris à peu près en moyenne 3 jours par semaine. Donc, effectivement, ça demande un vrai sacrifice personnel, puisque quand je suis absente de chez moi pendant 3, 4, voire 5 nuits, je ne vois pas mes enfants. Alors, c'est une organisation qu'on a réfléchi en famille, c'est-à-dire que mon mari prend beaucoup le relais. On a fait aussi appel à des personnes pour nous aider sur par exemple sur la question des tâches domestiques. Mais donc effectivement, ce sont des sacrifices que je fais, que je trouve normal de faire et que je suis contente de les faire pour mener à bien ma mission. Mais ça a évidemment un impact sur ma vie personnelle.
Vous attendiez à ça quand vous avez remplacé Emmanuel Constantin à la législative ?
Alors disons qu'effectivement, je l'aurais pas remplacé sans avoir mesuré et réfléchi à ces conséquences-là. Et après, évidemment, on mesure jamais totalement les impacts que ça a. On le mesure au moment où on y est. Mais effectivement, j'y avais réfléchi avant de prendre ma décision.
Alors, expliquez-nous aussi comment ça se passe le travail au sein d'une commission. Je le disais, vous êtes au sein de la commission des affaires sociales, qui est très large parce que ça touche la santé, le travail, beaucoup de domaines très différents en fait.
Tout à fait. C'est une commission, c'est une des commissions qui justement a traité le plus de sujets, puisque ça va de tout ce qui est code du travail, donc sur lequel nous avons déjà travaillé, la question de l'assurance chômage, des retraites, sur lequel nous allons bientôt travailler, mais aussi donc la santé, par exemple le budget de la sécurité sociale, le PLFSS, est voté d'abord dans cette commission, donc les questions de santé et plus largement de solidarité. Et donc le travail en commission, alors depuis la réforme de 2008, la réforme de la Constitution, la commission a un pouvoir accru, c'est-à-dire que les amendements qui sont votés en commission changent le texte qui est ensuite présenté à l'hémicycle. Sauf exception faite pour les textes budgétaires comme le PLFSS et le PLF. Donc la commission a un vrai pouvoir et un vrai travail d'expertise sur un certain nombre de sujets, puisqu'évidemment, les députés ne peuvent pas être experts de tous les sujets. Donc il y a une spécialisation par commission.
Oui, néanmoins, je pense que le président de l'Assemblée nationale essaye d'alléger un peu les séances, notamment avec les amendements qui sont présentés en commission et qui sont ensuite représentés lors des séances à l'Assemblée. Est-ce que ça vous paraît possible d'alléger ce travail ?
Ça me paraît non seulement possible, mais ça me paraît important, parce qu'effectivement, on l'a vu par exemple sur la loi d'habilitation a donc autorisé le gouvernement à prendre des réformes, à réformer par ordonnance le code du travail. Donc il y a eu une première, donc un premier passage en commission de cette loi, qui est ensuite passé à l'Assemblée nationale, au Sénat, à nouveau à l'Assemblée nationale en seconde lecture, au Sénat. Donc si vous voulez, on a eu des arguments sur un certain nombre d'amendements qui ont été développés 5 fois, et parfois à l'identique. Donc là, on a vraiment le sentiment, effectivement, d'une perte de temps. Et ces mêmes arguments-là, cet exemple-là est intéressant, puisqu'on les a eus à nouveau au moment de la ratification de ces ordonnances. Donc, on a eu tout ce circuit-là une deuxième fois avec, dans certains cas, les mêmes arguments. Donc, on se dit qu'effectivement, c'est important pour gagner en efficacité de réformer cela.
RCF, la joie se partage.
Vous écoutez Agora en partenariat avec Max Centre et notre invitée est aujourd'hui Caroline Janvier, députée République En Marche de la 2e circonscription du Loiret.
Pour reparler du groupe La République En Marche, est-ce que vous êtes toujours aussi godillot, excusez-moi du terme, comme on disait du temps des gaullistes, ou est-ce qu'il y a des courants qui commencent à apparaître à En Marche? C'est ce qui se dit notamment sur les problèmes d'immigration, pour faire large.
Alors, je crois qu'il faut, enfin, je me méfie en tout cas moi des grilles de lecture un peu trop simplistes, c'est-à-dire qu'ils voudraient nous enfermer, nous, soit dans le député Godillot, soit dans le député Frondeur. Vraiment, ce qu'on essaye et ce qu'on a à cœur tous de vivre au sein de notre groupe parlementaire, c'est d'avoir des débats les plus riches, les plus ouverts possibles au sein du groupe, et ensuite d'avoir une forme de discipline, de solidarité collective, et c'est-à-dire d'être solidaire de la décision qui est prise. Évidemment, dans certains cas, si c'est trop difficile pour certains qui se sont trop en décalage, il y a toujours la possibilité de s'abstenir. Enfin, il n'y a évidemment aucune obligation ou aucune forme d'autoritarisme sur ce sujet-là. Mais je crois qu'on est effectivement sur une ligne de crête, mais qu'on est pour le moment ni Godillot ni Frondeur.
Et est-ce que vous avez eu des désaccords avec les textes qui ont déjà été adoptés à l'Assemblée nationale ou les sujets évoqués?
Vous situez plutôt à gauche ou plutôt à droite?
Justement, je crois que ce prisme de la droite, on doit le dépasser, quoi, parce que il enferme les gens dans une forme de posture et de devoir de fidélité par rapport à ce qu'historiquement le PS ou la droite aurait pu porter ou la défense d'une certaine catégorie de population. Donc je me sens sur certains sujets plutôt du côté de ce que la droite a défendu, sur d'autres de ce que la gauche a défendu. Mais effectivement, je pourrais pas dire que je suis de droite ou qu'il y a un courant de droite ou de gauche au sein de ce groupe.
Et sur les désaccords possibles ou éventuels?
Sur les désaccords, disons qu'on a eu des débats, mais sur tous les sujets, on a eu des débats. Sur la question de la réforme du Code du travail, sur la question de la loi confiance, sur le budget. Le budget, c'est douloureux de faire un budget parce que ça veut forcément dire qu'il y a certains endroits, il va falloir faire des efforts, faire des diminutions de dépenses, alors qu'il y a quelque part aucune dépense qui ne se justifie pas. Donc on a eu des débats sur beaucoup de sujets, sur la question des agences de l'eau, sur la question des aides, par exemple, pour les familles monoparentales dans le cadre du PLFS. On a eu ces débats-là. Maintenant, j'étais tout à fait satisfaite et en accord avec les projets de loi qu'on a votés au final.
Quel était votre désaccord sur les agences de l'eau? Vous ne souhaitiez pas qu'une partie du budget aille à l'Office national de la chasse, par exemple?
Alors non, sur les agences de l'eau, il y a eu un débat sur le fait de savoir à quel point on pouvait demander aux agences de l'eau de faire des efforts. Et effectivement, moi, j'avais posé la question parce que j'avais été sollicitée par des citoyens sur cette question-là, sur la baisse des crédits aux agences de l'eau. Donc on a eu un débat, mais pas un désaccord, hein, sur savoir effectivement jusqu'où on peut faire demander à ces instances de faire des efforts. Et effectivement, pour cette année, il y a un effort qui sera fait par les agences de l'eau, mais qui, ça sera a priori sur le dernier budget sur lequel il sera fait.
Alors on parlait de votre travail en circonscription, à l'inverse d'un Richard Ramos du Modem, qui lui distribue les oignons, les croissants, qui est très médiatique. Vous n'êtes pas adepte de ces coups médiatiques. Alors on a l'impression, et on le voit dans les commentaires chez nous, sur le site maxcentre.fr, on a l'impression que vous ne travaillez pas. C'est bien sûr l'impression de certains citoyens. Vous allez essayer d'être plus médiatique, de faire des coups?
Alors, mon objectif, parce que si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure, il y a un moment où il faut qu'on priorise nos actions et surtout notre temps. Moi, j'ai vraiment un temps qui est compté et chaque minute, chaque heure, j'essaie vraiment de la dédier à ce qui me paraît le plus efficace et le plus nécessaire. Mon objectif, c'est qu'il y ait des résultats concrets et que dans 5 ans, je puisse dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce sur quoi j'ai agi. Donc, c'est Et si vous voulez, le temps que je passerais à communiquer et à faire des coups, comme vous dites, ça serait du temps en moins pour travailler en profondeur sur les dossiers. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels là, j'ai commencé à travailler. Je ne vois pas forcément l'intérêt d'aller faire un communiqué ou d'aller sur les plateaux pour valoriser quelque chose sur lequel, d'ailleurs, je n'irai peut-être pas jusqu'au bout. Voilà, je crois qu'il faut communiquer sur des résultats et sur des réalisations, mais ce n'est effectivement pas dans ma vision des choses de communiquer sur des débuts d'initiatives.
Alors, vous nous avez justement communiqué les questions que vous avez posées au gouvernement ou au sein de l'Assemblée nationale, et notamment, il y en a une sur l'état inquiétant du réseau ferroviaire en région Centre-Val-de-Loire. Vous dites qu'il y a eu une catastrophe en 2013 à Brétigny-sur-Orge. Pardon. Vous estimez aujourd'hui que là, il est nécessaire de tirer la sonnette d'alarme. C'est vrai qu'on parle de lignes malades pour la SNCF.
Tout à fait. Je crois qu'il y a un vrai enjeu sur les lignes, notamment d'intercité et de TER, qui sont aujourd'hui prises par énormément de Français et qui constituent pour eux leur quotidien. Il y a un vrai enjeu en termes de confort, que ce soit au niveau des retards, des pannes, en termes de sécurité, puisqu'on le sait, ça demande des investissements majeurs. Et je ne voudrais pas incriminer la SNCF, puisqu'on sait qu'il y a des difficultés financières pour réaliser ces investissements. Mais effectivement, je souhaitais attirer l'attention de la ministre sur ce point-là, parce que je crois qu'il en va de la sécurité et du quotidien de nos concitoyens.
Mais que peut faire un député sur cette question ?
Ben justement, interpeller la... Alors j'ai souhaité rencontrer Madame Borne et donc je prévois justement d'en discuter avec elle. Ce qu'on m'a répondu pour le moment, c'est qu'effectivement les assises de la mobilité devaient justement permettre de remettre à plat et d'avoir une réflexion plus globale qui concerne pas uniquement les transports ferroviaires, mais l'ensemble des modes de mobilité, en prenant en compte à la fois les enjeux économiques mais aussi environnementaux, sociaux. Donc c'est une réflexion beaucoup plus large. Donc je pense que j'aurai des questions, des réponses à mes questions à ce moment-là. En tout cas, je continue à travailler cette question-là.
D'accord.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Sophie, vous êtes aussi intervenu auprès de la ministre de la Santé, Madame Buzyn, sur le désert médical de la région Centre, et en particulier le nouveau zonage qui a été fait par l'Agence régionale de santé et qui exclut notamment Saint-Jean-de-Laruel, qui fait partie de votre circonscription. Donc vous faites bien remonter des sujets à l'Assemblée nationale.
Et des sujets locaux.
Sujets locaux, qu'ils le sont.
Tout à fait. Et sur cette question, par exemple, de la MSP des chaises, j'ai sollicité donc également aussi l'ARS, Madame Bouillard, qui m'a répondu qu'il y aurait, qu'effectivement, c'était pas une zone d'intervention prioritaire, même si le nouveau zonage, on peut quand même, j'en profiter quand même pour le préciser, le Loiret est passé, ça devait être quelque chose comme 13%, à 50% en zone d'intervention prioritaire et 80% pour les zones d'intervention complémentaire. Donc c'est quand même une vraie réussite et on peut penser qu'on aura beaucoup de financements qui permettront d'améliorer la situation. Pour la situation du quartier des Chaises, effectivement, c'est pas une zone d'intervention prioritaire du fait de sa localisation en métropole. En revanche, le caractère interdisciplinaire de la maison de santé permettra à cette structure de bénéficier d'aide auprès de la CPM. Donc la directrice générale de l'ARS m'a rassurée sur ce point-là.
Alors on voit que sur les maisons de santé, ce n'est pas forcément la solution idéale, puisque à Orléans, la source, les médecins s'en vont de cette maison de santé. Est-ce que vous êtes favorable, vous, par exemple, à la fin de la liberté d'installation pour les médecins ? Parce que c'est une des solutions qui est prônée, notamment par un certain Philippe Vigier, que vous connaissez peut-être.
Alors, c'est une position et une option qui existe et qui est discutée au sein de notre groupe. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que 40% seulement des médecins exercent. Donc, il y a un problème de démographie, mais il y a un problème de répartition, mais il y a donc au-delà de ça un problème de démographie, puisque s'il y a 10 ans, il était manifeste qu'il y avait une démographie nationale suffisante, mais un problème de répartition avec des médecins qui allaient notamment auprès de la Méditerranée.
Aujourd'hui, en région parisienne ?
Voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a un problème de démographie, c'est-à-dire que même en région parisienne, il n'y a plus suffisamment de médecins. Donc ce problème de répartition est moins manifeste. Et au-delà de ça, il y a ce problème de l'exercice. Quand on n'a que 40% des médecins qui exercent, et parmi ces 40% des médecins qui n'ont plus les mêmes souhaits, les mêmes façons d'exercer, avec plus d'attirance vers des métiers de type salariat, avec des horaires fixe, avec donc je crois qu'il y a une réflexion qui est assez profonde à mener sur ce sujet-là.
Autre sujet très aigu, toujours médical, en région Centre, c'est le passage du CHRO, le Centre Hospitalier Régional d'Orléans, en CHU. C'est aussi un problème qui se pose dans la mesure où on sait que les médecins s'implantent en général là où ils ont étudié, et ici uniquement à Tours.
Oui, alors après, c'est sûr que c'est une vraie question. Après, est-ce que la région Centre peut avoir deux CHU?
Orléans est la seule métropole en France à n'avoir pas de CHU.
Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, sur cette question-là, encore une fois, j'en parle beaucoup avec ma collègue Stéphanie Rist, on en a parlé avec Madame Bouillard également. Je souhaite aussi rencontrer le doyen de la faculté de Tours à ces sujets-là pour essayer de voir ce qui peut être fait. Mais voilà, est-ce que symboliquement, c'est sûr que le fait d'avoir un CHU est quelque chose qui symboliquement serait un signe assez fort. Maintenant, est-ce que c'est la solution unique? Je n'en suis pas convaincue.
Allez, on passe à la réforme politique et de l'Assemblée nationale, puisqu'il est prévu que les députés ne soient plus que 403 députés au lieu des 577 actuellement. Donc là, vous êtes prêts, vous, à voter cette réforme-là, parce que vous sciez un peu votre branche?
Tout à fait, mais j'y suis non seulement prête et convaincue, parce que je crois qu'effectivement, 577, quand on voit par exemple dans un pays comme la Russie, qui ont 145 millions d'habitants et ils n'ont que 450 députés, quand on connaît aussi l'étendue de ce pays-là. En France, on a un nombre trop important de députés, ce qui leur permet d'ailleurs pas forcément d'avoir les moyens suffisants pour exercer leur mandat, notamment en termes de nombre de collaborateurs. Donc effectivement, je suis tout à fait favorable à cette réduction d'un tiers, qui nécessitera, donc ça sera plus ardu que ça n'y paraît, qui nécessitera une majorité qualifiée à 3/5, donc des deux chambres, Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Donc il y aura un vrai travail à faire de concertation avec l'opposition. Mais ça me paraît tout à fait indispensable et nécessaire, effectivement.
Mais un redécoupage des circonscriptions, il y a combien de députés en trop dans le Loiret ?
6 députés, donc effectivement, ça portera le nombre à 4. Et je crois que ça sera très important sur cette question-là, qu'on ne personnifie pas, qu'on reste avec un objectif de logique territoriale et de ce qui paraît le plus sensé au niveau du territoire, qu'on ne rentre absolument pas dans les questions justement de personnel et de vouloir garder son siège, sa position.
Caroline Janvier, vous venez d'évoquer la Russie et vous êtes présidente du groupe d'amitié franco-russe. Vous êtes restée un an en Russie. Qu'est-ce que vous y faisiez précisément?
Alors tout à fait, j'y ai vécu en l'année 2002-2003. C'est dans le cadre d'un échange universitaire prévu par tous les étudiants qui étudient à Sciences Po Paris. Et donc j'ai étudié à l'université d'État de Moscou, qui est un peu l'équivalent de la Sorbonne là-bas. Voilà, et à cette occasion, j'ai pu rencontrer des personnes avec qui j'ai continué à rester en contact depuis.
C'est un rôle un peu délicat, sous Monsieur Poutine, avec des relations un petit peu difficiles entre la France et la Russie sur différents sujets, notamment sur la Crimée ou sur la politique au Moyen-Orient. Il faut y aller avec des pincettes.
Oui, alors... Moi, ça me semble justement d'autant plus nécessaire que je crois que, et de façon générale, sur toutes les questions diplomatiques, il faut garder le dialogue. On ne dialogue jamais trop. Donc, le fait de faire dialoguer entre des sociétés civiles, ça a été prévu et annoncé par le président lors de leur rencontre à Versailles. Donc, oui. Dans le cadre du dialogue de Trianon, le dialogue des sociétés civiles, le dialogue des parlementaires, et ça peut se faire notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la Grande Commission. Et j'ai d'ores et déjà rencontré mes homonymes russes, les députés russes de ce groupe-là. Je crois qu'effectivement, il y a une vraie question à la fois en termes de communication, mais aussi d'information et de compréhension, puisque nous n'avons pas les mêmes visions à la fois de ce que doit être une démocratie, mais aussi du positionnement géopolitique, géostratégique sur un certain nombre de sujets, comme la Syrie, comme la lutte contre le terrorisme. Et je crois que c'est vraiment intéressant d'arriver à comprendre leur vision et que comprennent la nôtre.
Alors, dernier point, on l'a dit, il y aura beaucoup de réformes en 2018. Une qui fait déjà parler beaucoup, c'est le passage de la limitation de vitesse sur les routes nationales de 90 à 80 km/h. Vous êtes favorable à cette mesure, Caroline Janvier?
Écoutez, moi, je suis favorable à plus de sécurité et moins de décès sur les routes. Donc, à partir du moment où les études montrent qu'une telle baisse pourrait faire diminuer le nombre de décès, je ne peux qu'y être favorable.
Juste un mot sur la campagne électorale qui s'annonce. Le 18 mars prochain, les électeurs de la 4e circonscription du Loiret vont désigner à nouveau leurs députés, puisque Jean-Pierre Door a été invalidé. Vous allez y participer à cette campagne électorale pour soutenir Mélisine Harley. Est-ce qu'il y aura des réunions, des meetings avec des leaders nationaux?
Alors, bien entendu, je suis restée de toute façon très, très en lien et en contact avec Mélisine Harley, que j'apprécie beaucoup et dont je respecte le professionnalisme et l'engagement. Donc, nous avons déjà commencé à travailler sur un certain nombre de sujets. Il est prévu, évidemment, de faire venir des personnalités à cette occasion, mais je crois que le mieux, c'est effectivement que Mélusine puisse expliquer la façon dont elle souhaitera mener cette campagne, mais bien entendu, je serai à ses côtés pour la soutenir.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Caroline Janvier, donc députée de la 2e circonscription du Loiret. Merci beaucoup, Christian Bideau.
Merci, Sophie.
Cette émission est bien sûr à retrouver sur maxcentre.fr et sur rcf.fr. Bon appétit.
Merci.